RTU sur RFI.
RFI 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI matin.
L'heure du journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
À Gaza, un journaliste d'Al Jazeera tué dans les locaux de la Croix-Rouge, touchés par une frappe israélienne.
Et depuis qu'Israël a mis fin à la trêve, l'armée israélienne intensifie ses bombardements. Les structures hospitalières sont également touchées. Reportage de notre correspondant Rami El Magari dans un hôpital de Gazaville, dans le nord de la bande de Gaza. La politique de menace de droits de douane de Donald Trump. Dernier exemple en date, le président américain promet 25% à tout pays achetant du pétrole vénézuélien. 107 milliards de dollars en 2024, le chiffre d'affaires record du constructeur automobile chinois BYD qui dépasse désormais Tesla. En France, le concert Solidarité Congo maintenu le 7 avril prochain à l'Accor Arena malgré la polémique. Et puis musique, ce sera le choix musical d'RFI tout à l'heure. On vous fait découvrir à la fin de ce journal la rappeuse britannique John Glacier.
Le syndicat des journalistes palestiniens dénonce un nouveau massacre contre les journalistes à Gaza.
Une frappe israélienne a tué hier le journaliste Hossam Shabat qui travaillait pour le service arabophone de diffusion en direct d'Al Jazeera. Selon Reporters sans frontières, au moins 180 professionnels des médias ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Des journalistes pris pour cible. La Croix-Rouge a, elle, dénoncé hier une attaque contre ses locaux à Rafah qui n'a pas fait de blessés. L'armée israélienne multiplie les bombardements et les hôpitaux ne sont pas épargnés. Dimanche, une frappe a visé l'hôpital Nasser, tuant 2 personnes, dont un membre du bureau politique du Hamas. Selon l'OMS, sur les 36 hôpitaux de Gaza, seuls 17 seraient encore très partiellement fonctionnels. Reportage de Rami El Megari à l'hôpital Al-Mamadani de Gazaville avec Sami Boukhelifa à Jérusalem.
Une grande salle dans laquelle s'entassent des dizaines de patients. Samir veille sur son oncle, 66 ans, atteint par des éclats à la tête suite à un bombardement la semaine dernière.
Il avait une hémorragie, mais grâce à Dieu, les médecins ont réussi à la stopper. Il souffre également d'une fracture au bras. Ils lui ont posé des broches. Il était en soins intensifs, mais ils nous ont dit qu'il ne pouvait pas rester ici. Donc ils l'ont descendu dans cette pièce.
On est éloigné.
Le docteur Ahmed Alaaddine le reconnaît. En situation normale, le patient aurait dû passer quelques semaines en service de soins intensifs. Mais pas le choix. Trop de blessés, pas assez de lits, il faut faire le tri.
Sa blessure à la tête est très sérieuse. Il a besoin d'un suivi. Mais on n'a que 3 lits en soins intensifs. Et en plus, on a des blessés. On doit gérer les patients qui souffrent de différentes pathologies.
Une situation encore aggravée par la fermeture des points de passage vers Gaza. Selon l'UNICEF, 180 000 doses de vaccins infantiles et 20 respirateurs artificiels destinés aux nouveau-nés y sont bloqués depuis début mars par Israël. Rami El Merali, Gaza, Sami Boukhelifa, Jérusalem.
Et sur le terrain, ces dernières heures, l'armée israélienne poursuit des opérations au sol en encerclant un quartier de Rafah dans le sud de l'enclave. À noter que l'Égypte aurait proposé hier une nouvelle proposition de cesser le feu à Gaza. Information relayée par plusieurs médias, dont des médias israéliens.
Ils publieront aujourd'hui un communiqué commun.
C'est en tout cas ce que font savoir des agences russes. La Russie et les États-Unis ont achevé hier leur session de discussion sur la guerre en Ukraine à Riyad, en Arabie Saoudite. 12 heures de pourparlers à huis clos pour tenter d'arracher une trêve partielle en Ukraine sous l'égide de Donald Trump, le président américain qui continue sa politique d'utiliser les taxes douanières comme arme diplomatique, dernière menace en date, des droits de douane pour tout pays qui achèterait à l'avenir du gaz et du pétrole du Venezuela. À New York, Louvna Naki.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump cible ainsi le Venezuela. Il y a quelques semaines, le président avait accusé son homologue Nicolas Maduro de ne pas vouloir coopérer pour le retour de migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis. Dans la foulée, il avait aussi mis fin à la licence permettant au géant pétrolier américain Chevron d'opérer au Venezuela. Cette fois, il essaye donc de dissuader d'autres pays de faire des affaires avec Caracas et promet que tout pays achetant du gaz ou du pétrole vénézuélien sera frappé de 25% de droits de douane sur toutes ses marchandises entrant aux États-Unis, et cela à partir du 2 avril. Une mesure nécessaire selon Donald Trump, qui accuse le Venezuela d'avoir envoyé aux États-Unis, je cite, des dizaines de milliers de criminels, dont des meurtriers. Il cite l'exemple du gang Trendeagua et conclut son message par une promesse de continuer les expulsions de migrants. Cette menace, si elle est mise à exécution, pourrait toucher des pays comme la Chine, principal acheteur du pétrole vénézuélien. Son entrée en vigueur est prévue le même jour que les droits de douane réciproques que Donald Trump veut imposer aux partenaires commerciaux des États-Unis le 2 avril, baptisé par le républicain « Jour de la libération ». Loubna Anaki, New York, RFI.
On reste aux États-Unis, Jeanne, avec une histoire à peine croyable.
De hauts représentants de l'administration de Donald Trump ont dévoilé dans un groupe de discussion en ligne les projets militaires américains peu avant les frappes menées par les États-Unis contre les Houthis au Yémen. Sauf que dans cette discussion sur la messagerie cryptée Signal figurait un journaliste, en l'occurrence le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, qui a publié un article dans lequel il raconte l'affaire. Quelques heures avant le début des frappes contre les Houthis, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, y a publié dans cette discussion des détails opérationnels, dont des informations sur les cibles, les armes que les États-Unis allaient déployer, a rapporté à Jeffrey Goldberg, le journaliste. Les démocrates dénoncent depuis hier une débâcle. Donald Trump dit lui avoir la plus grande confiance dans son équipe de sécurité nationale. Direction l'Argentine, à présent 49 ans après le coup d'État militaire, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin dénonce une mémoire tronquée. Il a annoncé hier une déclassification totale des archives militaires entre 1976 et 1983. Reportage à Buenos Aires de Théo Conscience.
En cette journée nationale de la mémoire, la place de Mai à Buenos Aires est pleine à craquer. Edgardo, 76 ans, est venu avec des photos en noir et blanc de sa belle-sœur et de son beau-frère, tous deux victimes de disparitions forcées pendant la dictature.
Manifester aujourd'hui, c'est réaffirmer plus jamais de terrorisme d'État.
Plus tôt dans la journée, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la déclassification totale des archives des forces armées portant sur la dictature, qui avait en principe déjà été déclassifié en 2010.
Si cette déclassification permet de savoir où sont les corps des disparus et les bébés qui ont été volés, ce sera une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce que propose le gouvernement.
Selon Esteban, l'intention du gouvernement est de réhabiliter la théorie des deux démons et de mettre sur un pied d'égalité les crimes de la dictature et ceux des guérillas d'extrême gauche alors actifs dans le pays.
Cette théorie est une invention destinée à justifier les crimes de l'État, les massacres, la torture, les viols, les 30 000 disparitions forcées, ce que l'on appelle le terrorisme d'État.
Plutôt que de terrorisme d'État, Javier Milei préfère parler d'excès commis par l'État dans le cadre d'une guerre contre la subversion. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
C'est un chiffre d'affaires record qui illustre la montée en puissance des constructeurs chinois de voitures électriques.
107 milliards de dollars pour le constructeur BYD en 2024, alors que les ventes de Tesla ont-elles reculé pour la première fois de son histoire l'an dernier. Justine Fontaine.
Construisez vos rêves, voilà ce que veut dire l'acronyme de BYD en anglais. Et la firme chinoise semble se rapprocher du rêve, justement, de tout constructeur de voitures électriques, celui de dépasser Tesla. Car tandis que les ventes de la marque d'Elon Musk s'effondrent en Chine et baissent aussi en Europe, BYD a enregistré une hausse de 40% de ses ventes à l'échelle mondiale l'an dernier. Et par la même occasion dévoile donc ce chiffre d'affaires record, 107 milliards de dollars. Pour la première fois, c'est plus que celui de Tesla sur la même période. Des résultats financiers qui interviennent alors que BYD vient de dévoiler la semaine dernière un nouveau système de recharge ultra rapide de batterie. En revanche, la firme chinoise fait pour l'instant moins de bénéfices que Tesla et 2025 pourrait s'annoncer plus compliqué à cause des droits de douane imposés par Donald Trump contre les produits chinois et puis en raison des taxes de l'Europe, 17% supplémentaires depuis octobre pour toute voiture BYD importée dans l'Union européenne en réponse aux fortes subventions versées par Pékin à l'industrie. l'industrie automobile chinoise.
Et Justine Fontaine. Au Burkina Faso, deux journalistes enlevés hier matin à Ouagadougou, Guezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Faso. Tous deux ont été embarqués sans mandat par des hommes en civil, disant appartenir au renseignement burkinabé avant d'être convoyés vers une destination inconnue.
À Paris, le concert Solidarité Congo se tiendra bien le 7 avril prochain à l'Accor Arena.
C'est en tout cas l'annonce faite hier par les organisateurs de cet événement caritatif d'aide aux enfants victimes de l'actuelle crise à l'est de la République démocratique du Congo. Début mars, les autorités rwandaises avaient vivement critiqué ce projet car le 7 avril marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. Précision Guillaume Thibault.
Sérénité, c'est le mot d'ordre affiché malgré la polémique née du choix du 7 avril, malgré les pressions des autorités rwandaises et françaises qui souhaitaient un report. Les organisateurs de Solidarité Congo, représentés ici par Elvis Adidjema, le directeur de Sony Music Afrique francophone, plaident la bonne foi et l'impossibilité de décaler.
Effectivement, c'est malencontreux. On était tous d'accord sur le fait que c'était pas du tout volontaire et que l'initiative reste celle qu'elle est, c'est-à-dire d'aider des personnes dans le besoin, des populations dans le besoin. D'autant plus qu'on est ouvert au dialogue avec les associations et on n'a pas de problème particulier par rapport aux revendications de celles-ci.
La principale revendication des mouvements, comme l'association des Rwandais de France, représentée par l'avocat maître Gisagara, c'était justement le report de Solidarité Congo, la reconduction de la date du 7 avril, est donc perçue comme une provocation.
Soutenir les personnes qui sont victimes de cette guerre, c'est une cause noble que nous partageons, mais non à l'instrumentalisation pour en faire une tribune pour inciter à la haine et à la violence contre les Tutsis. Ça, nous ne l'accepterons jamais.
L'association des Rwandais de France, qui craint des troubles à l'ordre public, appelle la préfecture de Paris à interdire l'événement et estime que le concert Solidarité Congo est un concert de la honte.
Guillaume Thibault est parmi les artistes annoncés, les chanteurs Gims et Youssoupha. Enfin, ce sera le choix musical d'RFI tout à l'heure. La rappeuse britannique John Glacier signe un deuxième album, Like a Ribbon, c'est son nom, et José Marinho l'a écouté pour nous.
Elle dit avoir 20 000 ans et John Glacier, ce n'est pas non plus son vrai nom. C'est tout ce qu'on sait sur l'identité mystérieuse de cette rappeuse anglaise qui rattache le rap alternatif au trip-hop et au punk. Grandir dans un quartier d'immigrés à Londres a façonné la plume de cette artiste d'origine jamaïcaine, fille d'épicier. Ses textes poignants parlent de la place des étrangers dans un monde incertain. Ce disque regorge de poésie militante et de sons organiques. On y entend tout, jusqu'aux doigts sur les guitares qui relient ce slam engagé à la scène rock. Écoutez. John Glacier débute sa carrière en 2020 en postant sur les réseaux sociaux ses maquettes artisanales. Depuis, ses titres gardent volontairement ce côté inachevé, fragmenté et fragile. Avec cet album, elle dégage une perfection stylistique qui rencontre le son de 2025, voire le dépasse.
Rappeuse britannique John Glacier et ce sera le choix musical d'RFI tout à l'heure.
Et José Marinho viendra en studio pour nous en parler. Merci Jeanne Bartoli, 6h13 à Paris. Bonjour à vous, bienvenue, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'info internationale au programme de ces trois prochaines heures. Nos journaux toutes les demi-heures, des reportages, des chroniques, des invités. Vous entendrez notamment ce matin les attentes des Ukrainiens sur les pourparlers de paix indirecte organisé ces derniers jours en Arabie Saoudite à l'initiative des États-Unis.
Un jour ou l'autre, un consensus sera trouvé. Mais la seule chose que l'Ukraine doit négocier, c'est une paix à ses propres conditions. Après 3 ans de guerre, nous ne pouvons pas céder.
Cette habitante de Kiev, au micro d'Emmanuel Chaz, a écouté à 7h RFI Matin également aujourd'hui, dans la bande de Gaza, en Turquie, au Sénégal, avec notre invité Edouard Gemael, chef de mission du FMI pour le Sénégal. Nous serons aussi ce matin en RDC et puis en Syrie, dans l'une des très nombreuses usines de captagon découvertes dans le pays après la chute de Bachar al-Assad. Un business illicite très lucratif pour l'ancien régime qui avait de lourdes conséquences sur les populations alentour et qui en a toujours.
On veut que le nouveau gouvernement nous protège. Les milices continuent de nous menacer. Ils nous appellent, nous envoient des messages, nous disent qu'ils vont nous tuer et nous égorger si nous parlons.
Reportage de Manon Chaplin à écouter ce matin après la revue de presse internationale à 8h20. RFI Matin, vous le savez, c'est aussi le sport. On continue de parler aujourd'hui des éliminatoires de la Coupe du Monde de foot 2026. Le Mali bute, la Côte d'Ivoire passe, tous les résultats. Ça sera avec Antoine Grenier dans une demi-heure. RFI à suivre aussi nos infos sur notre site RFI.fr. Bon réveil, belle journée à vous sur la Radio du Monde. Et d'abord, nous partons au Japon pour notre rendez-vous La Une en Asie. On parle de cette alerte lancée par les plus grands vulcanologues du pays. La population doit se préparer à une éruption du mont Fuji qui peut survenir à tout moment. Bonjour Bruno Duval.
Bonjour.
Correspondant d'RFI à Tokyo. Alors Bruno, cette catastrophe, on peut le dire, est redoutée au Japon, car si elle survenait, un Japonais sur trois serait touché directement, à savoir les 40 millions d'habitants de Tokyo et de son immense banlieue.
Oui, parce que le Fujisan, comme on l'appelle ici, ne se trouve qu'à 90 km de la capitale. Plus de 800 000 personnes vivant à proximité de la montagne la plus célèbre du Japon devront impérativement évacuer. Parmi elles, les 120 000 habitants des localités situées au pied du volcan n'auront que 3 heures pour se mettre à l'abri, pas plus. Car, passé ce délai, des coulées de lave dévasteront toute la zone. Au-delà, la région tokyoïte dans son ensemble sera plongée dans la pénombre par près de 500 millions de mètres cubes de cendres volcaniques qui poseront d'énormes problèmes, comme explique Toshitsugu Fujii, qui préside le comité d'experts mis en place par le gouvernement.
Les cendres rendront le réseau routier impraticable et en s'accumulant sur les câbles et les transformateurs électriques, elles causeront des courts-circuits en cascade qui immobiliseront les trains et les métros. Elles pourraient même provoquer un blackout électrique, à savoir une panne de courant général. On ne peut pas du tout exclure ce risque, donc il faut s'y préparer.
Le risque est là, donc Bruno, vous venez de nous présenter les potentiels conséquences d'une telle catastrophe. Comment s'en prémunir? Quelles sont les consignes données à la population?
Remplir ses placards, afin d'avoir chez soi de quoi manger et boire pendant 15 jours, le temps que durera vraisemblablement cette éruption. Car les rayons des magasins vont se vider en quelques heures, et ensuite ils ne pourront pas être réapprovisionnés. Il faudra aussi rester chez soi. Un confinement obligatoire sera d'ailleurs sans doute décrété, comme au temps du Covid-19. Car la qualité de l'air sera épouvantable en raison de ces cendres volcaniques. Les médecins estiment d'ailleurs qu'une telle purée de poids causera de gros problèmes de santé à 12 millions de personnes, des problèmes respiratoires et oculaires notamment. Et ce ne sera pas simple de soigner tous ces malades si les hôpitaux sont plongés dans le noir et leurs appareils ne fonctionnent plus, faute d'électricité. Ces tokyoïtes, en tout cas, accusent le coup.
Je tombe des nues, je n'avais jamais imaginé qu'une telle catastrophe puisse arriver.
Des millions de gens empêchés d'aller à l'école ou au travail, je n'en reviens pas.
Le mont Fuji étant un site touristique extrêmement fréquenté, si une éruption survient, il faudra porter secours à des milliers de visiteurs étrangers dont la plupart ne parlent pas un mot de japonais. Cela va être le chaos.
Alors Bruno, est-ce qu'on a une idée de quand une telle éruption pourrait survenir?
Non, c'est impossible à dire, ce qui renforce évidemment l'anxiété des gens. Dans le passé, 180 éruptions du mont Fuji se sont produites, au rythme d'une tous les 30 ou 40 ans environ, mais la dernière en date, elle, remonte à plusieurs siècles, c'était en 1707 précisément. Donc les experts sont formels, étant donné à la fois ce délai si inhabituel entre deux éruptions et le fait que le Fuji demeure un volcan actif, statistiquement, en termes de probabilité, chaque jour qui passe accroît le risque qu'une telle catastrophe survienne. Et le moment venu, son coût sera astronomique pour l'économie nippone, plusieurs milliers de milliards de yens, soit des dizaines de milliards d'euros.
Bruno Duval, correspondant d'RFI à Tokyo, avec nous pour notre rendez-vous La Une en Asie. Merci Bruno. RFI Matin, prochain journal dans une dizaine de minutes, suivi de l'infosport. Et à 7h, on fera le point sur la mobilisation en Turquie qui se poursuit. De nouveaux rassemblements ont eu lieu hier soir. Nous appellerons Céline-Pierre Magnani sur place. On va aussi parler de la bande de Gaza où Israël poursuit ses bombardements. Hier soir, les habitants du nord de l'enclave ont été appelés à évacuer en prévision d'une frappe. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Une semaine après la reprise des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, notre invité à 7h20 ce matin est le journaliste palestinien multiprimé Rami Abou Djamous. Il est à Gaza et il va nous raconter l'enfer de retour dans le territoire.
Oui, il est le témoin de l'histoire de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, il raconte, notamment dans les médias français, ce conflit qui ensanglante sa terre. En 2024, il a reçu le prix Bayeux des correspondants de guerre. Il publie « Gaza, vie, histoire d'un père et de son fils » qui sort demain en France chez Stock. Il raconte les bombardements israéliens, la peur, l'exode, la mort. « Je dois témoigner, raconter au monde ce dont les civils sont victimes », répète-t-il. Et lui, qui est le père de deux petits-enfants, nous dit aussi comment, pour son fils, Walid, 3 ans, il fait le clown pour lui épargner la réalité. Rami Abou Djamous est avec nous tout à l'heure, une semaine jour pour jour après la reprise des frappes israéliennes sur Gaza. Que voit-il? Qu'espère-t-il? Son témoignage en ligne de Gaza dans une heure.
A tout à l'heure, Arnaud Pontus, rendez-vous à 6h20 en universel. En France, les sénateurs examinent aujourd'hui la loi proposée par l'ancien Premier ministre français Gabriel Attal, texte censé lutter contre la délinquance des mineurs. Et c'est une proposition largement vidée de sa substance qui arrive donc aujourd'hui dans l'hémicycle. Mais avec dedans quand même un arsenal répressif renforcé pour les mineurs condamnés pour des faits de terrorisme ou commis en bande organisée, donc facilitation et allongement du placement en détention provisoire ou encore assignation à résidence. Cette loi pourrait donc augmenter le nombre de mineurs en prison. Ils pourraient se retrouver dans le type d'établissement que notre reporter Sophie Bourlet est allée visiter près de Marseille. Reportage.
À la prison pour mineurs de Marseille, les portes s'ouvrent exceptionnellement pour laisser passer le député des Bouches-du-Rhône, Henrik Davy.
Et donc là, on va voir quelles sont les conditions de détention.
Il fait valoir son droit de visite.
Les jeunes, voir les activités qu'ils peuvent avoir, etc. Mais bref, pour n'importe quel détenu, voir si les conditions de détention sont correctes.
Depuis les rangées de cellules qui donnent sur la cour, 50 adolescents de 13 à 17 ans essayent d'attirer l'attention du député. Idriss a autrefois fait partie de ces jeunes incarcérés. Il explique l'engrenage.
Toute ma jeunesse, toute mon adolescence, je les ai passés dans les centres éducatifs fermés, la prison. Moi, la Busserine, c'est l'un des quartiers où il y avait le plus de trafic. Et en fait, quand tu lèves la tête et que tu regardes autour de toi, bien en fait, tout le monde baigne dans le trafic pour subvenir à leur consommation, à leur style vestimentaire, à tout ça. Et puis, petit à petit, je suis rentré dans ça, dans le stup, à guetter, à vendre, à monter de grade, jusqu'à à voler, et à braquer, etc.
Sur lui, la détention a aussi eu des effets positifs.
Oui, en fait, ça a été bien parce que tu as toujours des psychologues. Où ça te permet aussi de te poser, de faire une relecture un peu sur ta vie. Chez les mineurs, ça a été utile dans le sens où ils proposaient beaucoup de scolarité. Et au jour d'aujourd'hui, je suis diplômé, moniteur éducateur, je fais une VAE pour être éducateur spécialisé.
Mais ce jour-là, à l'EPM, la direction l'avoue, il n'y a pas école à cause du manque de personnel. La situation n'est pas rare, elle est due à de nombreux arrêts maladie et à des difficultés de recrutement. La juge pour enfants Laurence Bellon a suivi des mineurs pendant 30 ans.
Quand vous êtes avec un mineur, la notion d'apprentissage et la notion d'éducation, elle est fondamentale. L'idée qu'en frappant fort, il va comprendre, eh ben, c'est pas vrai. Vous avez là ceux qui sont en grande difficulté, et ceux qui ne sont pas en grande difficulté, ils le deviennent en étant placés avec des gamins qui sont très difficiles. On s'est mis à souhaiter de plus en plus que les mineurs soient traités. Je ne dis pas comme des majeurs, mais un peu comme des majeurs.
Plusieurs syndicats des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont appelé à manifester le 25 mars contre la proposition de loi Attal et pour une augmentation des moyens dans l'éducatif. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
RFI à Paris et Marseille, il est 6h23.
RFI Matin.
Notre question d'environnement sur RFI juste avant le retour de l'info africaine. Ce matin, à quel point respirer est-il mauvais pour la santé? Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour Andréane.
Vous posez cette question, Pauline, à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui de la deuxième conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé organisée par l'ONU en Colombie. Et vous nous dites que cette pollution est généralisée.
Oui, 99% de la population vit dans des zones où la qualité de l'air ne respecte pas les seuils de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les grandes coupables, les particules fines, des corps qui mesurent moins de 2,5 microns, c'est-à-dire 0,0025 mm, des particules ultra fines, moins de 0,1 microns, et puis tout un tas de gaz viennent polluer l'air également, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, ozone de basse altitude. Et cette pollution atmosphérique tue, selon l'OMS, plus de 4 millions de personnes en meurent chaque année, plus de 8 millions en 2021 selon le State of Global Air. Si l'on ajoute l'impact de la pollution de l'air intérieur, par exemple à cause de la cuisson au bois. Mais il existe des disparités géographiques, c'est ce que souligne Tanushree Ganguly de l'Air Quality Life Index.
Les gens qui vivent dans les régions où l'air est le plus propre vivent 2 ans et demi de plus que celles qui vivent dans les régions les plus polluées du monde. Les personnes qui vivent au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Pakistan perdent plus de 3 ans et demi de leur vie parce qu'ils sont exposés à un air vicié. Même dans les pays dont on ne parle pas autant comme l'Ouganda ou l'Arabie Saoudite, les gens perdent plus de 2 ans d'espérance de vie.
Alors Pauline, quelle maladie la pollution de l'air provoque-t-elle?
Alors première chose à avoir en tête, il y a des effets à court terme, des pics de pollution, et des effets à long terme d'une pollution pas forcément intense. Dans les deux cas, on trouve évidemment des maladies respiratoires, mais pas seulement. Les pics de pollution peuvent favoriser des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Et à long terme, Isabella Anesi Maizano, épidémiologiste à l'INSERM, liste d'autres problèmes de santé.
Au-delà de problèmes respiratoires, on a des problèmes cardiovasculaires. Donc, encore une fois, le cœur est atteint, le cerveau aussi. Et quand on parle du cerveau, on a aussi des maladies neurodégénératives. Et puis, ça va plus loin avec le diabète, avec certains cancers. Et quand les mères sont exposées pendant la grossesse, on a un risque de prématurité et petit poids du nouveau-né.
Cela s'explique par la petite taille des particules. Les plus fines peuvent franchir la barrière des alvéoles, là où se font les échanges gazeux dans nos poumons, et se retrouvent donc dans le sang et peuvent toucher tous les organes. La meilleure solution en termes de prévention, c'est de réduire les émissions de polluants. Quand c'est possible, il ne faut pas oublier que les particules dans l'air peuvent aussi avoir une origine naturelle, comme du sable en suspension. Au niveau personnel, il faut éviter, quand c'est possible, les rues embouteillées et ne pas bricoler les fenêtres fermées.
Merci Pauline Glaise, c'était notre question d'environnement ce matin. Allez, on s'arrête ensemble, on fait une petite pause et on s'ambiance sur RFI juste avant le journal. Et le choix musical de nos programmateurs ce matin, c'est sur notre playlist, le titre Old Soldier de Kelpie avec Van de Kool.
It's Kelpie Vibes. Tell them, give them, let them, not them, for them, my gift for them, not them, by them, tell them, give them, not them, by them, not them, not them. Old soldier, no go die unless to Badarugo. Old soldier, no go die unless on duty. Old soldier, no go die unless to Badarugo.
Oh, soldier, no go die unless to Badarugo. Oh, soldier.
Band de Call avec Kalpi et le titre Old Soldier, c'est à retrouver sur la playlist RFI de ce mois de mars sur toutes les plateformes d'écoute.
RFI à Fort-Dauphin, 96 FM.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui. L'appendicite aiguë et la péritonite sont deux urgences médicales qui requièrent une intervention chirurgicale. Quels sont les signes et les traitements adaptés? Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Camino Real et RFI Talent présentent Tamayo avec The Paris Latin Orchestra en concert. Retrouvez les gardiens de la scène salsa parisienne sur la scène du Romeo Club à Paris le 27 mars à partir de 19h.
Sin limite, la salsa sigue.
Plus d'infos sur la page Instagram Tamayo Musique.